Bien, chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Ésaïe, chapitre 59, 60 et 61. En principe, ces trois chapitres sont la continuation du chapitre 58 et même du chapitre 57. D'ailleurs, notre sujet du jour traite du Messie. Et celui-ci n'est pas présent seulement dans les chapitres 59, 60 et 61. Depuis le chapitre 52, les Judéens avaient posé une question à l'Éternel. Depuis le chapitre 58, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Par contraste, Ésaïe chapitre 59 suggère d'autres questions comme que nous sert d'appeler le bras du Seigneur pour nous sauver s'il ne le fait pas? Pourquoi fuyons-nous vers lui s'il ne nous entend pas? Ésaïe répond que Dieu est capable de sauver et d'entendre. S'il ne l'a pas fait, c'est un tout autre problème. Ésaïe 59, à partir du verset 1er, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Nous avons ici quatre termes très significatifs. Main, oreille, l'audition, le toucher, ensuite sauver, entendre. Délivrer, comprendre. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Quel que soit l'endroit, l'Éternel peut toujours sauver. À quelque distance que nous pensions être de lui, il peut nous être propice, il peut nous sauver, parce qu'il est non seulement le Tout-Puissant, mais celui qui est présent, celui dont l'œil regarde tous les habitants de la terre, afin de soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Son oreille non plus n'est pas trop dure pour entendre. D'ailleurs, dans notre dicton créole, nous disons souvent, « Bon Dieu couché, il va dormir, il ouait et il tendait, autant convenable la pleurer, et les lever la fête à l'air pour faire. » C'est vrai, bon Dieu couché, il va dormir. C'est vrai, son œil voit, ses oreilles entendent. Seulement, les humains doivent se ramasser devant lui afin de ne pas être emportés par sa colère, car quand il bénit, mais quand il punit. Dieu a choisi d'ignorer son peuple, non parce que c'est là son souhait, mais parce que ce sont nos fautes qui nous séparent de notre Dieu. Il s'agit ici de l'une des déclarations les plus claires de la Bible sur les conséquences du péché dans la relation entre Dieu et les hommes. Ésaïe passe le reste du chapitre 59 à développer cette notion qui a été présente tout au long de l'histoire humaine. Le péché détruit notre relation avec le Seigneur et nous conduit ainsi à la ruine éternelle. Non parce qu'il détourne Dieu de nous, mais parce qu'il nous détourne de Dieu. Je le répète, le péché ne détourne pas Dieu de nous, mais il nous détourne de Dieu. En effet, dans Genèse chapitre 3, le verset 8, quand Adam et Ève ont réalisé qu'ils étaient nus et qu'ils ont entendu la voix de l'Éternel, ils se sont cachés. Oui, ils se sont cachés. Alors qu'autrefois, c'était tout un plaisir pour eux d'aller à la rencontre de leur maître et seigneur, de leur père et ami, avant leur péché. Maintenant qu'ils viennent de faire du mal, ils s'enfuient. Oui, ils s'enfuient. En effet, c'est le propre du péché. Séparer l'homme de Dieu, séparer l'homme de son meilleur ami. Le péché est avant tout le rejet de Dieu, le fait de se détourner de lui. L'acte pécheur, se nourrit en réalité de lui-même, en ce sens que non seulement il est loin de Dieu, mais sa conséquence incite encore davantage le pécheur à le faire. Le péché nous sépare de Dieu, non parce que ce dernier ne veut pas nous toucher, non, loin de là, mais parce que le péché nous pousse à rejeter ses ouvertures en notre faveur. C'est pourquoi il est essentiel de ne tolérer aucun péché dans notre vie. Je le répète, il est essentiel de ne tolérer aucun péché dans notre vie. En effet, Ésaïe 59 présente un tableau sombre de l'humanité. Voici ce qui est dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres pour faire le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et s'il en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Amis qui m'écoutez, on dirait que ces lignes ont été composées hier soir pour nous être remises ce matin, tant elles sont actuelles. Mais la grande question est la suivante. Nous reconnaissons-nous dans ce tableau? Ou bien ne nous reconnaissons-nous pas? En fait, il n'y a aucun humain qui n'ait sa part dans ce tableau. C'est pourquoi il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, comme je vous ai dit tout au début, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est le Messie, c'est Jésus qui est venu pour nous sauver de tous nos péchés et nous délivrer de toutes nos iniquités. Néanmoins, nous devons nous détourner du mal, nous détourner du péché. C'est vrai, tous les hommes sont pécheurs, mais il y en a qui pêchent plus que d'autres. Et je voudrais que vous qui m'écoutez soyez trouvés parmi ceux-là qui pêchent moins. Oui, parmi ceux-là qui pêchent moins. Et le bon Dieu qui voit les cœurs ne manquera pas de vous soutenir, de vous fortifier, de vous faire miséricorde pour les petites choses, peut-être, que vous ne pouvez pas vraiment éradiquer dans votre vie. Toutefois, nous savons que seul celui qui veut pêche, personne ne pêche contre sa volonté. Il suffit tout simplement de se mettre du côté du Seigneur et celui-ci nous fortifiera contre nous-mêmes. Bien, chers amis, Ésaïe 59 fait une saisissante présentation du problème du péché. Heureusement, la Bible nous présente également l'espérance de la rédemption. Pour commencer, la première question qui se pose est la suivante. Combien d'entre nous ont péché? La Bible est sans équivoque. Nous avons tous péché. C'est pourquoi la rédemption ne se fonde pas sur une absence de péché, mais sur le pardon. Je répète, la rédemption ne se fonde pas sur une absence de péché, mais sur le pardon. Paul le confirme, tous ont péché. C'est pourquoi on ne peut pas faire de la distinction sur cette base. Ceux qui sont justifiés sont jugés en tant que justes uniquement parce qu'ils ont reçu la foi. Par la foi, le don de la justice de Dieu grâce au sacrifice du Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En principe, que nous dit ce texte sur la façon dont nous sommes sauvés? Nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. Quelle espérance nous donne-t-il concernant le jugement? Ceux qui sont justifiés, ils le sont, pourvu qu'ils demeurent dans la grâce de Dieu, dans la justification, ils n'encourent aucun jugement. D'ailleurs, il est dit, c'est Jésus que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Victime propitiatoire. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Oui, la plupart des gens pensent que la question qui se pose en rapport avec le jugement est qui a péché? Mais il n'est pas nécessaire de la poser, parce que tous ont péché. La question qui se pose est plutôt celle-ci. Qui reçoit le pardon? Dieu est juste quand il justifie celui qui croit en Jésus. Le facteur décisif en ce qui concerne le jugement est qui a reçu et continue de recevoir le pardon par la foi en Jésus-Christ. Bon, il est vrai que nous sommes jugés par les œuvres, mais pas parce que celle-ci sauve. Si c'était le cas, notre foi serait vaine. En revanche, nos œuvres révèlent si nous sommes véritablement sauvés. Je le répète, nos œuvres révèlent si nous sommes véritablement sauvés. En fait, personne ne peut être acheté par ses bonnes œuvres ou son obéissance à la loi. Le but de la loi dans un monde pécheur n'est pas de sauver, mais de faire prendre conscience du péché. En revanche, la foi qui opère par l'amour, l'amour répandu dans le cœur à l'Esprit de Dieu, montre que la personne a une foi vivante en Jésus. Les œuvres sont l'expression, la manifestation chez l'être humain d'une foi salvatrice. C'est pourquoi la véritable expérience chrétienne se traduit par une foi qui s'engage quotidiennement avec le Seigneur, ce que révèle l'obéissance à la loi. Dans le jugement, Dieu se sert des œuvres comme preuve, ses créatures ne sachant lire, comme lui, les pensées de foi. Mais pour le converti, seules les œuvres qui suivent la conversion, quand sa vie est fortifiée par la puissance du Christ et du Saint-Esprit, sont prises en compte lors du jugement. Je le répète, pour le converti, seules les œuvres qui suivent la conversion sont prises en compte lors du jugement. La vie de péché antérieure à la conversion a été effacée par le sang de Jésus. La vie de péché antérieure à la conversion a été effacée par le sang de Jésus. En poursuivant son message, après avoir décrit la situation des hommes, situation vraiment lamentable à cause du péché, le prophète continue. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte les yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Ainsi s'est exprimé le prophète en parlant de la restauration de Jérusalem. En la vérité, de quoi parle ce texte? Le texte parle de la bénédiction du monde par Jérusalem. Des gens qui viennent de toutes parts dans le monde à Jérusalem rechercher la lumière de l'Éternel. Remarquez, il est bien dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur les bras. Ces deux versets sont, ou plutôt nous décrivent, le retour d'exil opéré par Dieu pour son peuple, exprimé par l'image de Dieu faisant surgir la lumière des ténèbres et annonçant la plénitude du salut en Christ. Cependant, le même texte a aussi une portée plus lointaine. Non seulement le retour de la captivité babylonienne, mais aussi le retour de la captivité du péché, car il viendra un temps où nous, les captifs du péché, serons délivrés et nous serons conduits à la nouvelle Jérusalem. En hébreu, cette personne, ou plutôt, est féminin, singulier. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Sion, personnifié par une femme mentionnée vers la fin du chapitre précédent. Ainsi, les peuples de la terre qui sont recouverts de ténèbres marcheront vers Sion. Ils seront attirés par la lumière de la gloire de Dieu qui s'est levée sur elle. Il est demandé à Sion d'entrer dans la lumière qui est la sienne, puis d'observer et de réagir vis-à-vis des nations qui se rassemblent autour de cette même lumière. En effet, au jour de Jésus-Christ et des apôtres, cette parole a trouvé plein accomplissement. Les gens venaient de la Décapole, de la Galilée, des environs du Jourdain, de Tyr, de Sidon. Ils venaient de partout pour entendre Jésus. Rappelez-vous, Genèse 12, versets 2 et 3, où l'Éternel avait dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » En effet, par Jésus de Nazareth, toutes les familles de la terre sont bénies. Il n'existe pas un coin sur terre où il n'y a pas au moins un croyant en Jésus-Christ. Et ce croyant est fils de Dieu, donc héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est pourquoi Dieu avait à l'esprit un dessein universel quand il a choisi Abraham et ses descendants. Par lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. Aussi, l'alliance de Dieu avec Abraham devait finalement être une alliance conclue avec toute l'humanité par l'intermédiaire de ce dernier. Lui et ses descendants devaient transmettre les révélations de Dieu au monde. Esaïe cherchait à faire prendre conscience à son peuple de son ancien destin universel. En tant que représentant du peuple de Dieu, il était responsable non seulement de lui-même, mais aussi du monde entier. Il devait accueillir les étrangers qui recherchaient Dieu. C'est ce que nous disons, les étrangers qui recherchaient Dieu. Par exemple, dans Isaïe 56, versets 3 à 8, nous lisons Isaïe 56, versets 3 à 8, « Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel ne séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom référable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » En effet, Dieu aime la terre. Dieu aime les hommes. À cause de cela, sa maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici. C'est ainsi que commence le beau texte d'Ésaïe 60. Cependant, Ésaïe 61 commence aussi par un autre texte aussi beau. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce pour l'Éternel, une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térubins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Bien-aimés, qui parle dans ce texte? Celui qui parle n'est pas encore venu. Et ce texte est une véritable prophétie. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui parle. Vous savez que l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Par conséquent, l'Esprit de Dieu s'est posé sur son oint, ce qui signifie que celui-ci est le Messie, est un Messie ou le Messie. Il doit annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs la délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Ésaïe 61, verset 2, parle de l'année de la faveur de l'Éternel ou d'une année favorable de la part de l'Éternel. Le Messie, point comme moi et libérateur davidique, annonce une année spéciale de façon divine au moment où il proclame la liberté. Oui, au moment où il proclame la liberté, Dieu ordonne aux Israélites de proclamer la liberté lors du jubilé, tous les 50 ans. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous reviendra dans sa propriété. Chacun de vous reviendra dans son clan. Cela signifiait que ceux qui avaient été obligés de vendre leurs biens ancestraux et de devenir serviteurs pour survivre en des temps difficiles retrouveraient leur terre et leur liberté parce que l'année du jubilé commençait par la sonnerie d'une trompette. Le jour des expiations. Nous avons mentionné ce passage auparavant en relation avec Ésaïe chapitre 58. Alors que l'année de la faveur de l'Éternel, dans Ésaïe 61, verset 2, est une sorte d'année de jubilé, elle n'est pas la simple observation de Lévitique 25. Elle sera annoncée par le Messie, le roi, quand il se révélera par un ministère de libération et de restauration. Cela rappelle certains anciens rois mésopotamiens qui soutenaient les actes de bonté sociale en proclamant l'annulation des dettes pendant les premières années de règne. Le ministère du Messie va beaucoup plus loin que la loi. Non seulement il proclame aux captifs leur libération, il pense ceux qui ont le cœur brisé, console tous ceux qui sont dans les deuils et les restaure. De plus, outre l'année de grâce de l'Éternel, il proclame un jour de vengeance de notre Dieu. Oui, un jour de vengeance. Ésaïe 61, verset 1 à 4, a été réalisé par Jésus, tel que nous le dit Saint Luc, dans Luc 4, à partir du verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Une question. En quoi le ministère de Jésus a-t-il accompli toutes ces choses? pas mis fin. Le ministère de Jésus, que dans les points par point, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour qu'il m'a passé ma main pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Rappelez-vous du sermon sur la montagne. Rappelez-vous des béatitudes. Il m'a envoyé vous guérir ceux qui ont le cœur brisé. Rappelez-vous les différentes résurrections, guérisons et les différentes évasions de démons que Jésus a opérées pour proclamer aux captifs la délivrance. Rappelez-vous ceux qui étaient captifs du péché, du démon, comment ils ont été délivrés aux aveugles du recouvrement de la vue. Rappelez-vous les multitudes d'aveugles que Jésus-Christ a guéris, par exemple Bartimée, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce et de du Seigneur. Rappelez-vous comment Jésus a libéré la femme cananéenne et bien d'autres encore. D'ailleurs, ce ministère de Jésus, ce doit être notre ministère. Oui, et c'est ce que nous faisons aussi. Pour proclamer aux captifs la délivrance, les captifs du péché, renvoyer libres les opprimés de Satan, publier une année de grâce du Seigneur, afin qu'ils trouvent le pardon de leurs péchés, etc. Et chers amis, alors que Jésus se trouvait à Nazareth, le Messie a lui, le Messie, il a lu Ésaïe 61 jusqu'à proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. Puis, il s'est arrêté et a déclaré, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il a donc délibérément et spécifiquement évité de lire les mots suivants du même verset. Un jour de vengeance de notre Dieu, alors que son ministère de la bonne nouvelle, de la liberté et du réconfort commençait à délivrer ceux qui étaient captifs de la tyrannie de Satan, le jour de vengeance n'était pas encore arrivé. Dans Matthieu 24, il a annoncé à ses disciples que des jugements divins surviendraient par la suite. Et c'est dans Ésaïe 61, le jour de la vengeance de Dieu est le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, selon le prophète Joël, qui s'accomplira quand le Christ reviendra pour délivrer la planète Terre de l'injustice en renversant ses ennemis et en offrant la liberté au reste opprimé de son peuple. C'est pourquoi, même si le Christ a annoncé le début de l'année de grâce de l'Éternel, celle-ci ne culminera qu'à son retour. Maintenant, une question. Comment concilier la notion d'un Dieu aimant et celle d'un Dieu qui promet également la vengeance? Un Dieu aimant et celle qui promet la vengeance. Tout d'abord, Dieu aime toutes ses créatures. Dieu aime toutes ses créatures. Il leur propose à tous la paix, le salut, la régénération. Les uns croient et acceptent la parole, pratiquent la parole. D'autres ne croient pas, donc ne pratiquent pas la parole. Or, il ne peut avoir éternelle cohabitation entre les croyants et les non-croyants. Il faut quand même qu'un beau jour la terre soit nettoyée. Le jour de ce nettoyage sera le jour de vengeance de notre Dieu. Même si Jésus nous a recommandé de tendre l'autre jour quand on nous frappe, ailleurs il dit clairement que seront distribués la justice et le châtiment. Même si Paul nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal, il a également déclaré que lorsque le Seigneur se révélera des cieux, enflammé de feu, il exercera la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Cette non-connaissance de Dieu n'est pas une ignorance de Dieu, non, c'est plutôt une volonté délibérée de ne pas se mettre du côté de Dieu. La différence avec nous, bien sûr, c'est que le Seigneur, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, peut, lui seul, distribuer la justice et la vengeance d'une manière parfaitement équitable. La justice et la vengeance humaine s'accompagnent de toutes les fautes, fragilité et inconsistance de l'être humain. La justice divine, il est certain, surviendra sans aucune de ses limites. Je viens de vous dire tout à l'heure que la non-connaissance de Dieu n'est pas une ignorance de Dieu. Non, mais plutôt la volonté délibérée de ne pas se mettre du côté de Dieu. Vous qui m'écoutez, quelle est votre position? Est-ce que vous avez décidé de décision éclairée de ne pas vous mettre du côté de Dieu? Ou bien vous avez décidé de vous mettre de son côté en le servant, en obéissant à tous ses commandements et en pratiquant toute sa parole? C'est à vous de choisir. Tout de même, Jésus se tenait devant l'auditoire comme un commentateur vivant des prophéties qui le concernaient. Il expliqua les paroles qu'il venait de dire, montrant le Messie comme devant consoler les opprimés, libérer les captifs, guérir les malades, rendre la vie aux aveugles et communiquer au monde la lumière de la vérité. Ses manières imposantes et la portée étonnante de ses paroles donnèrent à ses auditeurs une impression de puissance inconnue jusque-là. La vague de l'influence divine balayait tous les obstacles. Comme Moïse, il voyait l'invisible. Les cœurs émus par l'action du Saint-Esprit, il répondait par le fervent Amen et louait le Seigneur. Le jour de vengeance de Dieu vient, le jour de la violence de sa colère. Qui subsistera au jour de sa venue? Les hommes ont endurci leur cœur contre l'Esprit de Dieu. Mais les flèches de sa colère perceront là où n'ont pu pénétrer les flèches de la conviction. Dieu ne tardera pas à se lever pour s'occuper du pécheur. En ce temps-là, le faux pasteur pourra protéger la fille de son agresseur, celui qui s'en est allé avec la multitude sur le chemin de la désobéissance, sera-t-il excusé? La popularité ou le nombre rendront-ils moins coupables? Telles sont les questions que les négligents et les indifférents devraient personnellement considérer et régler. En sorte que, si aujourd'hui vous ne laissez pas votre cœur être traversé par la parole de Dieu en vue de sa purification ou de sa sanctification, le jour viendra où ce même cœur sera percé par la flèche de la colère de Dieu, et ce jour-là, ce sera vous. À vous de choisir où vous laissez votre cœur être traversé par la parole de Dieu, ou vous réservez ce cœur pour être transpercé par la flèche de la colère de Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ta grande sollicitude envers nous. Jour après jour, tu prends soin de tes enfants et tu prends patience aussi envers nous. Tu nous envoies ta parole afin que nous l'entendions, que nous l'écoutions, que nous la mettions en pratique pour notre bonheur et pour notre vie éternelle. Cependant, nous reconnaissons notre récalcitrance, notre désobéissance. Nos coups sont raides, nos têtes sont dures. Quoi que nous entendions cette parole, week-end après week-end, tout le long des jours de la semaine, quoi que tu nous parles par ton Saint-Esprit, quoi que notre conscience nous dit de ne pas continuer dans le mal, mais de faire vol de face pour nous tourner vers Dieu, nous continuons néanmoins à pécher contre toi. S'il te plaît, viens nous saisir toi-même par la main, en sorte que ce que nous ne pouvons pas faire de par nous-mêmes, tu le fasses pour nous. Veille nous transporter toi-même dans le royaume du Fils de ton amour, pour que tes enfants écoutent la parole et la pratiquent selon ta volonté sainte. Merci beaucoup pour la santé à nous accorder. Merci pour les différentes bénédictions que nous avons reçues. Merci pour cette dévotion à laquelle nous venons de participer. Et merci pour les prédicateurs que tu as mis à notre disposition pour nous exhorter, nous enseigner la parole et nous aider à faire la route chrétienne. Bénis-nous dans tout ce que nous entreprenons. Bénis-nous dans les membres de nos familles respectives, dans notre propre personne. Et permets que par nous, ton nom soit glorifié. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.